There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2010 et c'est l'épisode numéro 45. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de la technologie, d'internet, des gadgets, de tout ce qui fait notre vie numérique, le podcast qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes donc en octobre 2010 et c'est l'épisode 45 déjà. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. J'ai l'impression d'être sur Geeking, du coup. Et pour m'accompagner, j'ai deux amis podcasteurs, eux aussi. Jérôme Kainborg, mon compère d'Upload et présent dans d'autres émissions de No Watch. Comment vas-tu?
Bonsoir tout le monde, je vais très bien. J'accomplis un rêve d'enfant en étant sur le Rendez-vous Tech. Déjà tout petit, nous t'écoutions sur le poste à Galène avec mes parents. Et là, d'être là, c'est un moment d'émotion.
Mais tu te souviens que tu as déjà été dans l'émission, non?
Oui, je sais.
D'accord.
C'était juste pour faire une intro.
Et nous avons aussi un autre camarade podcasteur, David Ogia, qui nous rejoint, qui a quitté les Quadras et le monde de la fantasy de Bragelonne pour venir parler un peu tech.
Eh ben moi je suis très impressionné, bonsoir à tous. Et pour moi c'est une première. Et là je dois dire que j'ai vu la liste des sujets de ce soir et j'en mène pas large. Parce que chez les Quadras, nous en dehors du Commodore et du Spectrum, on est un peu largués. Mais bon, je vais tâcher de faire honneur à notre génération de papy geek.
Voilà, attends, rien n'a vraiment changé, sauf que nous c'était sur des cassettes.
Donc on quitte les cassettes, les disquettes et on se retrouve dans le cloud. Et on va parler donc, comme je le disais, de tout plein de choses. Et on va commencer avec un sujet qui, je pense, sera très intéressant à traiter parce que il va s'agir de Hadopi et d'une polémique qui a un peu impliqué différents fournisseurs d'accès Internet, dont notre illustre sponsor Numéricable. Donc vous l'avez certainement, vous en avez certainement entendu parler. Il y a Free qui a fait des choses un petit peu surprenantes vis-à-vis des lettres envoyées par Hadopi, et Numéricable leur a répondu par communiqué de presse, puis ça s'est fait un petit peu la guerre sur les blogs. Et je vais prendre une toute petite minute pour parler un petit peu de la relation qu'on a avec notre sponsor, parce que il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, non j'exagère, mais certains se sont dit que du fait que Numéricable était notre sponsor, on serait peut-être un petit peu obligé de faire l'impasse sur le débat ou de prendre un parti qui n'était pas forcément en accord avec nos opinions. Et je pense que c'est le bon moment pour parler un petit peu de la chose, parce que la question s'est posée quand on a commencé à prendre des sponsors, et certains craignaient que ça influence notre ligne éditoriale. Alors, je vais dire les choses très clairement. Le fait que nous soyons sponsorisés par telle ou telle entité ne change pas notre ligne éditoriale. Et ça, c'est une chose qui a été très claire avec notre sponsor, et qui non seulement a été une volonté depuis le départ, mais qui en plus a été parfaitement compris par notre sponsor. En tout cas, c'est le cas de Numéricable. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais Numéricable nous a parfaitement compris, et j'irai même un petit peu plus loin que ça. J'irai même jusqu'à dire que c'est une nécessité dans nos médias. Je pense que Jérôme sera d'accord avec moi, parce que le podcast, c'est pas la télé. C'est-à-dire que la télé, on est forcément un petit peu passif devant l'écran, on reçoit ce que nous envoient les chaînes. Et le podcast, c'est un média où les auditeurs choisissent de nous écouter. Donc, à partir du moment où nous, ce qu'on dit ne correspond plus à, pas forcément aux attentes, parce qu'on ne fait pas ce que veulent les gens, mais ce que nous on veut, mais si on n'est plus authentique vis-à-vis des auditeurs, ils ont un seul geste à faire, ils mettent pause sur l'iPod ou le Zoom, et ils vont aller écouter autre chose. Donc, la relation qu'on a est très différente de celle qu'on va avoir avec la télé. Et nous, évidemment, on n'a pas envie de transformer notre discours, mais en plus, ce n'est pas dans notre intérêt. Et ce n'est pas non plus dans l'intérêt de notre sponsor, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est parler à des gens qui nous font confiance. Et à partir du moment où on va dire des choses auxquelles on ne croit pas, forcément, nos auditeurs, donc vous qui nous écoutez, nos chers auditeurs que nous aimons tant, vous allez vous dire, bah non, de toute façon, le rendez-vous tech, ça y est, vendu, Patrick, il dit tel ou tel truc en fonction de tel ou tel sponsor qu'il a. Forcément, je ne vais plus avoir ni moi, ni mes co-animateurs, vont plus avoir aucune valeur pour vous. Donc, non seulement il est évident qu'on n'a pas envie de le faire, mais en plus, c'est pas dans notre intérêt. Donc, déjà, je pense que ça recadre un tout petit peu le débat. Ensuite, je dirais aussi, en parallèle de ça, que même dans les médias classiques, c'est pas parce que, je sais pas moi, Audi va faire de la pub dans Le Monde, que s'il y a un problème avec des voitures Audi, Le Monde ne va pas en parler. Je veux dire, il y a aussi un certain respect journalistique, même si nous, on n'est pas des journalistes. Mais c'est évidemment, Le Monde va parler des affaires qui sont les affaires courantes, et c'est pas parce qu'il y a de la pub qu'ils vont parler d'autre chose, donc, ou éviter un sujet qui est important. Donc voilà, c'était un moyen un petit peu de recadrer le débat. J'espère que ça éclaircit les choses. Et puis, c'est également pour dire qu'on va tout à fait parler d'Adopi et de ce qui s'est passé de manière respectueuse et classique, comme on le fait toujours. Je veux dire, on n'est jamais non plus des trolls qui vont lancer des trolls qui vont lancer des insultes pour le principe.
J'ajoute trois choses, je vais être très, très court. Mm-hmm. On en a beaucoup parlé, même avant même la création de NoWatch, de ce type de problème qui pouvait nous arriver, ouais. Avec toi, Patrick, et tous ceux qui ont fondé NoWatch. Et je dirais que c'est un peu écrit dans le marbre de notre charte. NoWatch n'imposera d'abord jamais un sponsor à un podcast. Et tous les sponsors le savent quand ils nous rejoignent pour nous sponsoriser, que notre ligne éditoriale, comme tu l'as très bien expliqué, on n'y touchera pas, parce qu'on sait que les gens peuvent nous zapper encore beaucoup plus vite que la télé ou un magazine. Donc après, on perd de l'audience, donc ça intéressera pas les annonceurs non plus. Donc c'est un deal qui est vraiment très très bien compris. Numéricable comprend très très bien qu'on parle d'eux par rapport au sujet d'Adopi,
l'actualité, quoi.
qui arrive aujourd'hui. Et j'ajouterais aussi quand même une dernière chose, c'est que et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va me revenir.
D'accord. Bon, je vais juste ajouter que j'irai même plus loin que cette analyse, c'est que Numéricable, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des discussions qu'on a eues avec Numéricable, je vais juste dire que Numéricable est derrière nous et ils sont derrière notre ligne éditoriale, donc c'est des gens qui nous font confiance. Donc moi, j'ai un vrai respect pour une marque qui s'engage dans quelque chose de nouveau et de dans une nouvelle manière de communiquer comme ça. Et je trouve ça très moderne de leur part. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils nous sponsorisent, nous. Je veux dire, ils ont une vraie démarche moderne là-dedans, et c'est admirable. Donc voilà.
Ouais. Bon, un dernier truc, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense qu'il y en a qui confondent, parce que c'est vrai que la presse a fait les choux gras des relations, par exemple, entre TF1 et Bouygues. Il faut bien comprendre que Numéricable est un sponsor pour nous, c'est pas un actionnaire de NoWatch, ils n'ont pas des parts dans NoWatch, donc c'est un rapport exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, comme quelqu'un qui mettrait une publicité dans un journal. Il n'a absolument aucun contrôle sur la ligne éditoriale de ce journal. Je sais que les choses peuvent devenir plus compliquées quand il y a des actionnaires dans une boîte d'information. Et encore que, bon, ben voilà. Mais voilà, c'était juste pour préciser, Numéricable n'est qu'un sponsor de NoWatch, pas plus.
C'est sûr.
Il y a eu d'ailleurs le cas tout à fait avec
avec Toyota et les pubs qui étaient liées à Toyota dans la presse ou à la télévision, ça n'a pas empêché de parler des problèmes de leur voiture hybride qui accélérait de manière inopinée. Donc ouais. Voilà, enfin c'est un des exemples et il y en a de nombreux.
C'est sûr.
Un tout dernier truc, c'était vraiment ça que je voulais dire. Il y a une chose aussi, je sais qu'on a eu quelques petites maladresses, il faut qu'on s'habitue à avoir des sponsors, mais on cherchera toujours à bien démarquer la publicité dans nos podcasts. Pas comme parfois on peut le lire dans certains blogs où les choses sont un peu mélangées avec l'info. Nous, le sponsor, il a sa place dans le podcast. On vous l'indique très clairement en disant maintenant on va parler du sponsor pour pas que ça se mélange avec le reste de l'éditorial du podcast.
Bien sûr, ouais, c'est important aussi. Ouais. Mm. Bon, voilà, on a fait un petit peu long. Je pense que c'était quand même très important d'en parler et de l'expliquer. Et je pense que ça sera la première et la dernière fois qu'on l'expliquera avec autant de soin. Maintenant, je suis sûr que les questions reviendront. Mais au moins, moi, j'ai l'esprit tranquille. J'ai expliqué les choses une fois. Et si quelqu'un se pose la question, je pense qu'il pourra revenir à cette émission et écouter mon point de vue sur la chose. Donc maintenant, passons au sujet qui a provoqué toute cette explication. Et là, on va se marrer. Donc,
je sais pas. Hein, franchement, c'est pas si drôle que ça, en fait.
Ouais, je sais pas s'il faut se marrer ou en pleurer. Mais enfin, bon, moi, j'ai une opinion assez arrêtée sur la chose. Je vais quand même résumer ce qui s'est passé. Alors, comme on vous a parlé d'Adopi depuis des mois et des mois, évidemment, vous connaissez tout le sujet. Adopi, donc cette haute autorité a commencé à faire envoyer ces emails prévenant les gens qu'ils ont partagé ou en tout cas, ils préviennent les gens que leur connexion devrait être sécurisée. C'est-à-dire que, a priori, ils ont trouvé les adresses IP des personnes qui partageaient des choses un petit peu illégales sur Internet et ils ont contacté les fournisseurs d'accès Internet pour obtenir les informations personnelles de ces gens-là et leur faire envoyer des emails. Alors, jusque-là, c'est ce qui était prévu. Hein, c'était comme ça que c'était censé se passer. Sauf que le petit troublion du net, qui est Free, a fait un article expliquant que Free n'avait pas envoyé les emails concernant ses abonnés pour des raisons dans lesquelles je vais rentrer un petit peu plus tard. Mais en gros, ils ont fait deux choses avec cet article, à tort ou à raison. Ils ont dit « Nous, on n'envoie pas ces emails parce que la loi telle qu'elle est écrite ne nous y contraint pas à 100%. » Et les autres, ils ont un petit peu pointé du doigt, les autres, eux, on fait du zèle, en gros, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, ensuite, ça s'est continué avec les autres, dont Numéricable, c'est pour ça qu'on en parle si spécifiquement, qui a expliqué sa position et qui a dit « Oui, ils sont bien gentils chez Free, mais la loi, c'est la loi. La loi est censée, selon la loi, on est censé envoyer ces emails. Nous, Adopi, on n'a aucune opinion là-dessus, ou à la limite, notre opinion n'est pas importante. Adopi, c'est la loi. » Et c'est pas à nous de choisir d'envoyer les emails ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Après, c'est hors de notre contrôle, en gros. Alors, ils sont envoyés la balle. Évidemment, toute la sphère Internet s'est mise à discuter. Certains encensant Free, d'autres descendant Bouygues, Numéricable et les autres, disant qu'ils s'étaient dévendus. Free, libérateur de l'internaute anti-oppression, etc., etc. Ça s'est quand même pas mal emballé. Et je le comprends parce que c'est sûr que Adopi, c'est pas quelque chose qui nous plaît particulièrement. Donc, les émotions sont vives. Ça, c'est en gros un grand résumé hein, de ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que vous avez une opinion sur le déroulement de la chose ou pas ? Moi, j'ai une opinion qui est, je pense, assez mesurée, mais je vais vous laisser peut-être donner la vôtre parce que je parle beaucoup.
Bah, vas-y Jérôme, parce que moi j'ai besoin d'une heure et demie pour expliquer.
D'accord. Et on fait pas le quadratour, hein, on va pas durer trois heures. Non.
Tu n'écoutes pas bien mes podcasts, parce que...
si.
Le plus bavard des trois, je crois que c'est moi.
Ouais, non, tu es très bavard, mais ce que tu dis est intéressant, Jérôme.
Oh, mais c'est très gentil, David.
On lui dit pas souvent, donc ça lui
je
fait plaisir.
Je vais te faire les lasagnes de l'amour à toi aussi.
Ah, avec plaisir.
Alors... Je vais pas prendre trop de risques parce que j'ai lu l'article de Corben, j'ai essayé vraiment de m'informer. Je crois qu'on est dans un sujet délicat et qui échauffe quand même beaucoup les esprits, surtout dans notre communauté, oserais-je dire geek. C'est le sujet délicat Adopi. Donc j'éviterai de prendre des jugements trop tranchés, je vais juger ça en tant que communicant publicitaire. Je trouve que Free aurait presque eu tort de rater une aussi belle opportunité de communication en faisant ça. Free ayant clairement un positionnement différenciant, outsider par rapport au gros leader institutionnel dans les FAI, Free avait presque tout intérêt à se positionner un petit peu en Robin des Bois. D'ailleurs, ils n'ont pas commencé avec cette histoire-là. Ils ont toujours eu cette tendance à prendre le contre-pied de ce qui plaît pas aux geeks, quoi. On va dire ça simplement.
Et j'irai même plus loin que toi dans cette analyse en disant que Free a effectivement un rôle de troublion dans les fournisseurs d'accès Internet qui a été salvateur quand ils sont arrivés il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y avait un statu quo à l'époque entre France Télécom et d'autres qui maintenait une sorte d'équilibre immuable dans les accès à Internet, dans les fournisseurs d'accès à Internet, et Free est arrivé comme un pavé dans la mare. Donc ils ont vraiment historiquement cette tradition on est le poil à gratter, quoi.
C'est un peu les stratégies de Virgin dans la distribution. Ouais. Enfin, je crois qu'il faut pas y voir tellement plus que des stratégies marketing, et je dis pas ça d'une manière péjorative, mais je ne crois jamais qu'une société prend son rôle civique. Enfin voilà, business is business, hein, comme disent les Américains.
En gros, tu crois pas que Free a un agenda politique ? Enfin, politique
aussi, quand on sait qu'effectivement Sarkozy était plutôt contre l'arrivée de Free sur le téléphone mobile, il y a un côté vengeance aussi. C'est des dossiers extrêmement complexes. Maintenant, j'aimerais quand même
plus
dire
terre à terre, hein, je pense.
Ce qui s'est passé derrière avec Numéricable. Je pense que Numéricable, effectivement, s'est un peu fait choper alors qu'il rapportait à la maîtresse. Je comprends tout à fait qu'ils se soient... ils étaient un peu dégoûtés de la position de Free, parce que moi, ça m'a fait penser à... Bon, tous les FAI s'étaient mis d'accord pour baisser la culotte en même temps. Et tout le monde y est allé, et puis Free, en dernier, a fait « Non, moi, j'y vais pas ». Donc, quelque part, je comprends que les autres FAI soient un peu dégoûtés, parce que du coup, ils passent pour les faillots, quoi. Et Numéricable, encore un peu plus, puisque son courrier s'est fait intercepter. C'est la Tribune, non ? Je sais plus quel journal a intercepté le courrier de Numéricable.
C'était Numéricable et Bouygues qui ont envoyé les premiers, alors que normalement, tout était censé être coordonné, justement, parce que personne voulait passer pour le faillot. Et il y a eu,
pour le
d'après
faillot,
ce que j'ai compris...
Et voilà. Donc, je dirais que, bon, là, on tombe dans des problèmes de communication de crise. Ouais. Je dirais que le problème d'Adopi est un problème grave. Après, j'essaye de différencier ce qui est marketing et ce qui se passe vraiment. Voilà, c'est un peu mon opinion de marketeux sur le sujet.
Okay. Bah, je suis assez d'accord avec Jérôme sur le côté marketing, mais en fait, je pense que toute cette histoire est bien plus terre à terre. Quand on sait comment fonctionnent les structures juridiques dans les entreprises, que ce soit Numéricable, SFR, Orange ou les autres, ils ont répondu à un simple texte de loi en envoyant les emails. Ça n'était pas une question d'être les premiers ou d'être les derniers, c'est juste on leur a demandé d'envoyer un certain nombre d'emails, ils les passent. La position de Free, elle est, à mon avis, tu as raison Jérôme, marketing, mais il y a aussi une histoire d'argent, parce que attention, Free a demandé pour le service de détection des IP, des noms des personnes à qui appartiennent les IP, ainsi que pour l'envoi des mails, a demandé à être rémunéré pour ce travail. Et c'est pour ça, surtout, qu'ils ont refusé d'envoyer les mails. C'est parce qu'ils sont pas contents, parce que cette histoire d'argent entre eux et l'Adopi n'est toujours pas réglée. Et elle n'est pas prête d'être réglée, d'ailleurs. Donc je pense que d'abord il y a ça, et ensuite il faut voir la réponse qu'a donnée l'Adopi, qui est extrêmement intéressante, puisqu'ils ont dit Free, il se présente comme, en gros, hein, je résume et je schématise, mais il, en gros, Free se présente comme une sorte de Robin des Bois qui veut protéger le geek téléchargeant des films ou des musiques. Mais en même temps, ils les mettent en danger parce que l'Adopi ne tiendra pas compte du fait que Free n'a pas envoyé les emails et continuera sa riposte graduée par l'envoi de courriers recommandés directement aux concernés et qui n'auront pas été prévenus avant par Free de l'email de l'Adopi. Donc c'est un peu à double tranchant.
Ce qu'ils disent, c'est que Free pense rendre service à ses abonnés en ne leur envoyant pas l'email, mais ça a quand même engagé la première étape, et donc les abonnés en question se retrouveront directement à la deuxième étape, alors qu'ils n'étaient pas au courant.
Exactement.
Ouais, c'est effectivement. Alors, comme le dit Lionel G dans la chatroom, juridiquement c'est flou, et c'est vrai que c'est sur une sorte de flou juridique sur lequel s'appuie Free, et Adopi répond à côté de ce que dit Free, parce que normalement dans la loi il est écrit que l'Adopi est censé envoyer les emails en son nom et sous son timbre, je crois que c'est le terme juridique, c'est-à-dire que c'est eux qui sont censés le faire.
Déjà, les timbres en eux-mêmes,
sauf qu'ils n'ont pas la. Ils n'ont pas les adresses.
Free pourrait leur envoyer les adresses, mais le truc, c'est que Adopi n'a pas de serveur pour envoyer les emails, parce qu'ils savent très bien que s'ils mettent des serveurs, ils vont se faire désintégrer immédiatement. Donc, ils sont censés envoyer par l'intermédiaire des FAI, mais cette procédure n'est pas détaillée. Donc Free dit bah voilà, c'est pas détaillé, c'est pas à nous de le faire, et l'Adopi dit bah oui, mais nous on vous a envoyé ce qu'il fallait, donc voilà, vous ne jouez pas votre rôle. Moi je crois que je sais pas s'il y a pas une vraie si les gens de Free et d'Iliad n'ont pas une sorte de
code éthique.
Ouais, je sais pas s'il y a pas une partie de ça. C'est sûr que c'est quelque chose de
Patrick, tu vis dans l'univers de Walt Disney.
peut-être. Non mais je dis pas que c'est le cas. Ce qui est clair, c'est que c'est en énorme partie certainement un coup marketing, mais je me demande s'ils se disent pas bon bah du même coup, nous on est psychologiquement presque
c'est notre nature d'être
Non, mais ce que je veux dire, c'est philosophiquement, voilà, je réussis à trouver mes termes, philosophiquement contre l'Adopi, donc du même coup on va faire un petit peu chier. Et ce qu'ils font, en fait, il faut pas se leurrer non plus du côté des internautes. Ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu l'équivalent, moi l'image que ça m'a évoqué, c'est le mec qui va payer ses impôts en pièces de 10 centimes, tu sais, ils vont faire chier pour le principe parce qu'ils sont contre, mais il faut pas se leurrer, la loi est quand même là, et on ne peut pas, là où il faut se révolter, c'est contre Adopi, c'est pas contre les FAI qui vont envoyer des emails, je veux dire.
Bah, clairement.
C'est Adopi quand même, pour lequel.
Il y a une chose, moi justement, j'ai travaillé dans la communication. Une campagne de publicité, ça coûte extrêmement cher. Quand tu as une occasion comme ça, parce que Free, on est bien d'accord, le cœur de cible de Free, c'est qui ? C'est nous. C'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est pas les gens qui prennent Internet sans savoir ce que c'est qu'Internet et qui utilisent que pour les emails. Le cœur de cible de Free, c'est des gens qui aiment le mot Free et la liberté d'Internet. Donc, je veux bien croire que ça soit dans leur ADN de prôner la liberté sur Internet et de se mettre en Robin des Bois, mais il y a un calcul, mais encore une fois, je ne le dis pas d'une manière péjorative, du bon marketing, c'est une bonne chose quand on a une boîte.
Ouais, c'est sûr.
Et ils y ont vu une opportunité, et ça leur coûte mais 1000 fois moins cher que n'importe quelle campagne qui dirait que Free est contre Adopi, par exemple, d'une manière déguisée, parce qu'ils ne pourraient pas le dire. Là, c'est du pain béni pour une boîte comme ça. Et je pense que, très honnêtement, de tous les FAI, je comprends que Numéricable soit un peu le plus dégoûté, parce que Numéricable joue un peu sur le même terrain que Free, en essayant de se réconcilier aussi avec les internautes, alors que d'autres FAI type Orange, SFR plus institutionnel. Moi, par exemple, j'ai parlé de cette histoire à mes parents qui sont chez Orange en FAI. Ils n'étaient même pas au courant. Il n'y a que chez nous que ça fait du bruit, tout ça.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, donc c'est normal aussi que les FAI qui sont positionnés sur les, on va dire, les hyper connectés comme nous, Voilà, il y avait une belle opportunité de com, il y en a un qui l'a pris et l'autre non, et voilà.
Bah, c'est sûr que ça les montre sous un jour un petit peu. Disons que c'est pas... Malgré, tu vois, je suis très honnête hein, sur ce coup, c'est quand même pas hyper loyal de la part de Free, parce que il se montre de manière un petit peu facile comme les Robins des Bois, enfin vous l'avez déjà dit, c'est peut-être pas la peine de le répéter, mais et de l'autre côté, les autres ont l'air d'être des vendus, alors qu'encore une fois, c'est, si on veut se rebeller contre quelque chose, c'est contre Adopi, je veux dire, c'était à l'époque, a parlé des dizaines et des dizaines de fois, c'était à l'époque où c'était en train d'être voté qu'il fallait descendre dans la rue, qu'il fallait écrire à votre député, qu'il fallait faire du bruit, et ça oui, je suis d'accord.
Ben, ensuite, rappelle-toi, Patrick, que ceux qui l'ont fait, je me souviens de ce journaliste de TF1 qui a écrit à son député ou à sa députée et qui s'est retrouvé à la porte de TF1 parce que l'email avait été relayé par...
Oui, tout à fait, oui.
C'était un peu honteux, cette histoire.
C'était complètement ridicule.
J'aurais juste deux choses à ajouter. C'est d'abord Free, ils ont commencé à ennuyer la Dopi, pas avec cette histoire d'envoi d'email, mais d'abord avec la récupération des IP, puisqu'ils ont donné à la Dopi les IP sous forme de listing informatique imprimé. Donc déjà ça c'était une galère pour la Dopi. Et ensuite, je voulais juste dire un autre truc au sujet de Free, c'est que ils passent pour les gentils ce coup-là, mais faut pas oublier que c'est eux qui en ce moment sont en train de brider les bandes passantes des sites de streaming parce qu'ils en ont assez que les gens regardent les séries télé et les films en stream. Donc a priori Free fait du filtrage de sites pour brider un peu le stream abusif, quoi.
Ouais, je voulais pas trop rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que bon, si tu l'évoques, il y a quelques temps, même YouTube était... Enfin, on n'était pas sûr, mais YouTube, énormément de gens avaient constaté que c'était plus lent. Il semblerait que c'était peut-être un partenaire de Free qui avait des problèmes qui ont été réglés. Et c'est vrai que maintenant, YouTube est revenu à sa vitesse normale. Et puis, il y a d'autres choses, je veux dire, les histoires de... Ils veulent faire une sorte de réseau parallèle à Internet où ils pourraient vendre des services qui sont plus ou moins chers et ensuite vendre Internet comme un service ajouté qu'ils comptent. Bon, il y a des trucs aussi bizarres du côté de chez Free. Je pense que ça sera intéressant de rentrer dans
ce domaine. AOL.
Non, mais c'est exactement ça. Tu sais, ils ont leur... D'après ce qu'on peut vaguement deviner de leur plan sur le long terme, c'est un petit peu de refaire une sorte d'AOL en France. Ce qui n'est pas non plus hyper cachère au niveau de la neutralité du net. Mais bon, je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là, je voulais vraiment rester sur la question d'Adopi.
Moi, je donnerais juste un dernier mot. Je pense que tu as complètement raison. Tout ça, c'est des diversions. Après, Adopi, soyons objectifs. Adopi est tellement dans le collimateur de notre communauté que je crois qu'Adopi dirait bonjour, tout le monde critiquerait le mot bonjour. Je crois que là Adopi, j'aimerais pas être à leur place en communication là. Bonjour le casse-tête.
Bien sûr. Entre parenthèses, j'ai regardé le débat sur la chaîne parlementaire entre il y avait un débat avec je sais plus comment il s'appelle.
Le député PS là,
Christian
Paul.
Christian Paul, Monsieur Reist.
Il y avait Christian Paul, il y avait Franck Reister qui était le représentant, l'ancien rapporteur de la loi Adopi à l'Assemblée nationale.
Exactement.
Et des internautes. Et
Mireille Imbert Carreta et le jeune homme Jérémy Zimmermann. Voilà.
Ouais. Et c'était très intéressant. J'ai regardé une partie aussi. Et ce qui est intéressant, c'est la position du Parti Socialiste en matière, enfin de certains représentants du Parti Socialiste vis-à-vis de l'Adopi qui pensent à l'abroger si jamais ils gagnent les élections en 2012. Ils en ont un paquet de lois à abroger en 2012.
Oui, ça fait beaucoup, c'est sûr.
Que ça sera la dernière roue du carrosse, mais bon, pourquoi pas.
C'est possible. Mais moi, je vous avoue que dans ce débat, je me suis retrouvé dans aucun des représentants. C'est-à-dire que même Zimmermann, qui a priori, c'est la quadrature du net qui est hyper anti-Adopi, je l'ai trouvé quand même hyper vindicatif. C'est pas que Reister n'était pas vindicatif, mais lui, il était hyper vindicatif. Reister laissait pas les gens parler non plus, mais il était contre tout et hyper extrême dans le sens où, oui, la liberté de toucher les télécharger, c'est bien. Enfin, je sais pas, moi, je me suis retrouvé chez personne, et personne de tous ces gens-là n'a évoqué le fait le plus important, qui était que priver une personne de sa connexion à Internet, en dehors de ses délits, priver une personne de son accès à Internet, c'était le couper d'une partie de la société. C'était comme lui enlever l'eau ou l'électricité. Personne n'a évoqué ce sujet, moi. J'étais halluciné, quoi. Le fait que la décision ultime d'Adopi, la pénalité ultime d'Adopi soit de couper l'accès à Internet, c'est ça le vrai problème dans cette loi. C'est ça la vraie fumisterie. Enfin, c'est... Bref. Bon, moi, je me suis retrouvé nulle part et tout ça est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois. Et dans lequel
que tu l'auras encore, Patrick. Tu l'auras
encore de nombreuses fois, c'est sûr. Bon, allez, passons à autre chose. Je pense qu'on a fait 20 minutes là-dessus, mais c'était quand même un sujet hyper important.
Non, mais c'était important.
C'est un sujet majeur.
Tout à fait.
Puis c'est, comme dit David, c'est pas fini, hein, tout ça.
Non, c'est clair. Non. Autre chose, toujours au niveau de ces questions de lois anti-piratage et de leur relation avec les fournisseurs d'accès à Internet, en Angleterre, il y a eu des problèmes de vie privée qui se sont posés parce que un jour, il y a un mois environ, je crois, les noms des personnes qui étaient contrevenantes au copyright et qui avaient été envoyées par certains fournisseurs d'accès Internet à l'autorité compétente, hein, donc les je crois que c'était les avocats des ayants droit, les gens de SES Law. Donc ces noms ont été piratés et exposés aux vues et aux sues de tous. Donc en gros, il y a eu un problème de vie privée, de piratage, qui a fait que les fichiers des noms et des adresses de centaines et de milliers d'utilisateurs de fournisseurs d'accès Internet se sont retrouvés librement accessibles sur Internet.
Alors attends, j'ajoute un truc, Patrick.
Oui.
C'est que c'est les noms de personnes qui ont téléchargé ou regardé illégalement des films à caractère pornographique. Donc c'est encore plus la honte. C'est pas parce que t'as téléchargé le dernier Walt Disney ou le dernier Iron Man. Non, c'est parce que t'as téléchargé The Uranus Experiment 1, Part Babe,
Le Rendez-vous Tech.
Non mais je lis sur la page de l'article, je lis les noms des
j'ai lu aussi, il y en a des gratinés, ouais.
C'est hallucinant,
ouais, tout
quoi.
À fait.
C'est hallucinant.
Et donc les fournisseurs d'accès, en fait, ça a été une sorte d'électrochoc parce que évidemment on parlait de communication, c'était un coup de pub, un anti coup de pub énorme. Ils se sont un petit peu réveillés et ils ont dit en Angleterre « Écoutez, vous êtes gentils avec toutes vos histoires de fichiers envoyés à tort et à travers. Nous, on va arrêter de collaborer parce que ces histoires nous posent des problèmes et nous mettent en danger. Et il y a une question de protection des données privées qui est importante. Donc, à partir de maintenant, il va falloir un petit peu plus que juste une demande pour qu'on vous envoie les noms. Et en gros, ils ont dit merde aux ayants droit. Donc, c'est juste en complément de cette histoire d'Adopi qu'il était intéressant de noter cette anecdote presque, parce que nous, on est un petit peu au début de cette histoire. En Angleterre, c'est une situation un peu différente, mais il n'est pas du tout inimaginable qu'on voit encore de nombreux dérapages et de nombreux problèmes avec cette obsession du combat contre le piratage. Et ça pourrait aller dans cette direction aussi, parce que tous ces fichiers-là, moi, je ne ferais pas énormément confiance à Adopi, même s'ils ont une dame qui a l'air très sérieuse, qui est en charge de la protection des données. Bon, on risque d'avoir des anecdotes de ce genre-là dans les mois à venir, et je ne suis pas sûr qu'on en rigolera tellement.
On sait que les Anglais, déjà, ils ne doivent pas avoir l'équivalent de notre loi informatique et liberté. Et on sait que les dérapages bien croustillants, notre ami Quacos va souvent à la source du Captain Web, va souvent à la source anglaise pour trouver les choses les plus extrêmes. Et il faut avouer que pareil, en matière de protection de la vie privée, en matière de recherche d'Internet, en matière de vidéosurveillance, on sait que c'est les plus extrêmes en Angleterre. Et ça, je suis à peine surpris de cette news, quoi.
Vous savez qu'ils ont eu un projet, ils ont des réseaux de caméras dans le pays entier, dans toutes les villes.
Glasgow est la ville la plus équipée en caméras de vidéosurveillance, c'est des milliers de caméras. C'est Glasgow en Écosse, c'est la ville la plus équipée en caméras de surveillance.
Et ils ont projet, je ne sais pas où ils en sont de ce projet, mais ils ont un projet selon lequel ils mettraient toutes les images de toutes ces caméras à disposition du public en temps réel, et le public pourrait signaler des crimes en train d'être commis et être rémunéré pour les crimes signalés.
Je crois que ça existe déjà.
C'est vrai.
Ouais. Maintenant qu'on a mis la caméra de surveillance chez Patrick, il suffit d'envoyer quelqu'un avec un poignard et puis on va se faire un peu d'argent. Et alors, je te dis pas le pic d'audience là, Patrick.
Ouais, tu vas c'est clair. C'est clair.
Oh là là.
Ah, mais que se passe-t-il? Non.
Non.
Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon. Ok, on enchaîne sur l'event de la semaine dernière, le gros event Facebook qui a annoncé des trucs absolument incroyables. Bon, et moi j'étais un petit peu refroidi, enfin pas hyper enthousiasmé, non. J'étais pas hyper fou d'enthousiasme, oui, pour ce qu'ils ont annoncé. Ils ont fait beaucoup de bruit pendant au début de la semaine en disant « Voilà, on va annoncer plein de trucs, venez à notre événement un petit peu à la Apple. » Et donc, je vous la fais courte, ce qu'ils ont annoncé, c'est trois choses. Je vais commencer par le plus simple. D'abord, une sorte de tableau de contrôle des différentes applications Facebook et de ce à quoi elles ont accès. Donc ça, c'est très bien, c'est une chose qui aurait dû être là depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Donc on pourra contrôler facilement à quoi, que ce soit Farmville ou Twitter ou d'autres applications, auront accès à l'intérieur de Facebook, et c'est un moyen de contrôler les accès qu'auront les différentes applications à nos données personnelles. Donc, ok, très bien. Deuxième chose, qui est également très intéressante et qui est un changement dans la philosophie de Facebook, c'est qu'il donne la possibilité aux gens, désormais, de télécharger l'ensemble des données qui sont disponibles sur Facebook sur eux. C'est-à-dire que tous les posts, tous les statuts qu'on a fait, toutes les photos de nous que nous on a téléchargées, uploadées, ou même que d'autres personnes ont uploadées et ont tagué avec notre nom, etc., etc. Tout ce qu'on a fait sur Facebook, on peut désormais le télécharger dans un fichier zippé, bien propre, bien organisé, pour le conserver. Et ça, c'est un changement de philosophie parce que toutes ces informations, en fait, sont le bien le plus précieux de Facebook. C'est grâce à ça qu'ils nous font revenir sur le site, parce que si on peut prendre ces données et les emmener n'importe où, évidemment, ça veut dire que Facebook n'est plus totalement indispensable. C'est intéressant parce qu'avant, ils étaient totalement contre ce transfert de données, et puis là, ils donnent cette possibilité assez facilement, à mon avis, pariant sur le fait que la plupart des gens ne vont pas vraiment aller faire ça parce que ça sert pas à grand chose a priori pour la plupart des gens. Et en même temps, ça leur permet de se donner une bien meilleure image parce que ils peuvent dire bah oui, nous on est ouvert, si vous voulez prendre vos données, voilà, on vous aide, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider et ça améliore énormément leur image. Ça répond à une des critiques essentielles qu'on faisait sur Facebook. Et avant de parler de la troisième chose, Jérôme, je vais te laisser débrancher et rebrancher ton truc parce que tu sillonnes. Et donc je vous laisse parler sur ces deux choses. Donc le tableau de bord des applications et le téléchargement des données. Ça vous inspire quelque chose ?
Ah super, moi j'adore Facebook, je suis passionné par ce truc là. Non, honnêtement, Facebook, je trouve que c'est une usine à gaz. Je trouve que c'est beaucoup trop lourd. Je trouve que les applications de jeu sont envahissantes,
Plus maintenant, hein, ça va beaucoup mieux.
Ouais, ça va mieux, mais ça reste quand même. Bon, je trouve encore que c'est une usine à gaz. Le pouvoir downloader ces données, par contre, c'est pas mal. Finalement, à un instant T, on peut télécharger tout ce qui tourne autour de son compte Facebook, et puis se dire que dans un an, on refera une sauvegarde. C'est une sorte de, à mon avis, pour moi, je prends ça plutôt comme une sorte de sauvegarde d'un instant T sur Facebook. Maintenant, moi, depuis que j'utilise Twitter, j'avoue que j'utilise tellement moins Facebook. C'est étonnant pour moi. L'utilisation de Facebook, c'était une espèce de veille de mes amis. Aujourd'hui, Twitter a non seulement remplacé ça, mais en plus ça me permet de suivre les infos de gens aussi passionnants que Patrick Béja, Jérôme Kainborg et d'autres. Donc je trouve que aujourd'hui, par... alors c'est un complément pour moi, Facebook est un complément de Twitter, mais je trouve quand même que ça devient une usine à gaz un peu indigeste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que je m'en sers de moins en moins, quoi.
Moi j'ai une question parce que j'aimerais juste comprendre quelque chose. Quand tu peux télécharger ton Facebook zippé, imaginons il y a un concurrent à Facebook, est-ce qu'on peut uploader ce qu'on a téléchargé de Facebook pour remplir voilà toute une fiche sur un concurrent?
Ah bah justement, c'est là que ça devient très intéressant, notamment avec l'arrivée de...
Ils vont pas attaquer Facebook.
Bah non, l'idée c'est que a priori, ça ouvre la porte à exactement ce que tu décris, et c'est très intéressant
ça,
parce
c'est
que
intéressant, ouais.
le fameux Diaspora, vous savez, ce projet totalement ouvert qui a été lancé au moment où il y a eu la Xème polémique sur la vie privée sur Facebook et sur le fait qu'ils vous mettaient d'office activé sur plein de trucs qui partageaient vos informations sans vous demander votre avis. Bah, des projets comme Diaspora, avec ce nouveau système, pourraient, en théorie, au minimum, vous faire télécharger le truc et puis le faire uploader manuellement, au maximum, peut-être même, le faire automatiquement eux-mêmes. Donc,
c'est vraiment... Ils s'ouvrent à la concurrence. De toute façon...
Bah oui, non, mais c'est quelque chose de vraiment... C'est pas anodin, quoi. C'est vraiment un changement de philosophie chez Facebook.
Encore une fois, je vais plus me positionner sur le terrain du communicant que du tech parce que j'y suis plus à l'aise. Je crois que Facebook avait tout intérêt à faire ça. Entre la sortie du film, l'image qu'il véhicule, Facebook traîne quand même un boulet qui, finalement, à long terme, malgré le nombre d'utilisateurs... Enfin, Facebook vend deux choses, son image et le nombre d'utilisateurs. Si t'as une mauvaise image, t'as beau avoir beaucoup d'utilisateurs, ça vaut rien. Donc Facebook avait tout intérêt à s'ouvrir à la concurrence, essayer de devenir aussi cool. Enfin, le modèle étant pour l'instant Google, qui malgré son entreprise tentaculaire et on dirait presque le spectre avec toutes ses tentacules, arrive à garder cette image de mec cool et sympa qui nous donne tout gratuit. Et Facebook l'a vraiment perdu. Ce côté-là, et en termes de marketing, c'est catastrophique. C'est des choses, il faut être prêt à changer radicalement son business model pour regagner, parce que l'image de nos jours, c'est la plus belle valeur qu'une entreprise peut avoir, c'est son image.
Donc, moi je dirais que, pardon, fini.
Non, c'est fini.
Bah, moi je dirais que je suis éberlué par la capacité qu'a Facebook à prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et je continue à en être étonné, Facebook était, il y a un an et demi, quand on a commencé à beaucoup parler de Twitter, il y avait des gens qui disaient « Voilà, Facebook c'est le passé et Twitter c'est l'avenir. » Et c'était pas juste un trop plein d'enthousiasme pour Twitter, il y avait... une vraie... Enfin, à l'époque, les statuts de Facebook étaient à milieu de ce qu'il y avait sur Twitter. Aujourd'hui, c'est un peu kiff-kiff, mais Facebook avait pris un énorme coup de vieux. C'était lourd, c'était... Alors oui, c'est encore beaucoup plus lourd que Twitter, comme tu le dis, David, mais ils ont énormément évolué. Et encore une fois, là, en ajoutant cette option qui est beaucoup d'images et concrètement assez peu de conséquences immédiates, en tout cas, ils prennent encore une bonne décision qui va à l'encontre de ce qu'ils ont fait pendant des années. Enfin, moi, je trouve que... il faudra attendre de voir le film pour porter un jugement réel dessus, mais Mark Zuckerberg, vous savez, il y a cette polémique entre Mark Zuckerberg, donc le président de Facebook, et les co-créateurs, a priori, les gens qui lui avaient commandé le site à l'époque. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais voilà, Zuckerberg a volé Facebook aux gens qui lui avaient commandé, et en fait, il les a enfilés, il les a fait traîner, machin. » Et en fait, il a volé l'idée de Facebook, et si c'était pas lui qui l'avait fait, s'il n'avait pas fait ça, les autres, ils seraient milliardaires. Mais les gens se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. C'est... Les réseaux sociaux n'étaient pas quelque chose de nouveau. Il y avait avant même MySpace, qui est le truc auquel tout le monde pense. Il y avait Friendster, il y a LinkedIn qui est toujours là. Enfin, il y en avait énormément. Et l'idée du réseau social, bon, Facebook l'a amené dans les universités, donc c'était un marché un peu particulier en quelque sorte. Mais le réseau social, c'était pas quelque chose de nouveau. Ce qui a fait le succès de Facebook, c'est les différentes décisions qu'ils ont prises depuis des années. Et le mec qui est à la tête de tout ça, c'est Mark Zuckerberg. Et on peut pas dire que Zuckerberg a volé Facebook à d'autres personnes qui étaient tranquillement dans leur truc et qui se sont fait voler leur idée. Pas du tout. Je veux dire, il y a une réplique dans le film qui dit, où il dit, si vous aviez inventé Facebook, bah vous auriez inventé Facebook. Et c'est, ça a l'air idiot, mais c'est exactement ça. Si vous l'aviez fait, eh ben vous l'auriez fait. Vous n'auriez pas fait autre chose. Vous n'auriez pas, vous ne seriez pas en train de venir pleurer. Il leur a payé, je ne sais plus combien, 600 millions de dollars. Voilà, il les a payés parce qu'il y avait un petit machin au départ sur l'idée de base. Maintenant, il a fait évoluer son truc à partir de l'idée de base d'une manière qu'il ne pouvait, enfin, qui était vraiment spécifique à ce que lui a fait et qui est mené d'une main de maître. Moi, j'admire beaucoup ce mec, même
moi,
si...
Moi, je pense que tu as raison, Patrick. C'est, on peut comparer totalement Zuckerberg à Jobs pour Apple. C'est l'icône, non seulement l'icône de l'entreprise, mais c'est, à mon avis, la tête pensante. Et je voulais savoir, apparemment, tu as vu déjà le film Facebook ?
Non, je ne l'ai pas vu encore.
Alors, est-ce que vous allez tous les deux le voir ? Parce que moi,
Bien sûr.
Non seulement parce que c'est un film sur Facebook, mais c'est aussi parce que c'est un nouveau film de David Fincher, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup.
David Fincher est écrit par Aaron Sorkin, accessoirement, et qui est l'auteur de The West Wing pour les amateurs de séries télé qui suivent.
Et puis il y a une jolie meuf dedans, pardon.
Bon, enchaînons parce que là en fait c'était que la petite partie des trucs Facebook. Il y a aussi la grosse annonce en fait, c'était l'annonce des groupes dans Facebook. Alors les groupes existent déjà, mais en fait c'est un nouveau type de groupe qui est en fait une sorte de mini Facebook dans Facebook. C'est-à-dire que si vous créez un groupe, vous pouvez y inviter vos amis et vous allez pouvoir poster dans ce groupe, un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui, des mises à jour, des photos, des vidéos, etc. Et les gens qui font partie de ce groupe vont pouvoir inviter à leur tour leurs amis et vous allez recevoir des alertes sur les mises à jour de ce groupe pour ne rien rater en fait. C'est une sorte de mini Facebook dans Facebook, c'est-à-dire que quand vous allez dans ce groupe, vous allez voir ce qui s'y passe. L'idée, la philosophie derrière ça, c'était le fait de recréer des groupes d'amis un petit peu plus restreints que l'ensemble de vos contacts. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, mais voilà, moi j'ai été intégré à plein de trucs, du coup ça m'a envoyé plein de spam parce que on m'a intégré à 3 ou 4 groupes différents qui comptent 500 personnes et moi ça m'intéresse pas ». Je comprends la réaction, mais en même temps, c'est la plupart de ces gens-là, c'était des gens qui avaient, genre, sur leur profil Facebook, 3000 ou 4000 amis, et qui utilisaient Facebook pas de la manière dont il est censé être utilisé. Moi, j'ai depuis bien longtemps fait de ma page Facebook privée une page privée, j'ai aussi une page publique, mais il y a tellement d'informations à nous et il y a tellement de choses qu'on met dans Facebook que je pense qu'il est très important de contrôler ces informations et de pas ouvrir sa page Facebook aux quatre vents.
Moi, je veux pas mélanger en modèle, mais...
Ceci dit, moi, les groupes, les nouveaux groupes dans Facebook, ça ne me parle pas du tout, quoi. Ça ne me dit rien.
Moi, j'en ai créé un pour le Quadratour et ça a l'air assez pratique. Je m'en sers pour faire les annonces, mais...
Quelle différence avec les anciens groupes en fait ?
Mais j'avais jamais créé d'anciens groupes, alors je suis passé directement au nouveau groupe. Mais maintenant que tu en parles, je vois très bien à quoi ça correspond. Et en effet, c'est ça, c'est un mini Facebook dans Facebook. Et bon, c'est vrai que les gens rejoignent le groupe et ça apparaît comme un petit Facebook.
C'est un peu comme les pages de fans en fait, non ?
C'est encore un autre truc parce que
c'est compliqué tout ça.
Les pages de fans, en fait, tu peux les rejoindre, mais là, tu peux inviter des amis, enfin, tu peux intégrer des amis. Ce qu'il disait, c'est que c'est comme une mailing list, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux intégrer les gens à ta mailing list, transférer le mail de la mailing list à tes potes, etc.
Moi,
etc.
Je sais que depuis le départ, quand je me suis inscrit sur Facebook, j'ai créé 5 listes différentes avec des niveaux de confidentialité. Et pour moi, c'est ça mes groupes, quoi. J'ai mon cercle restreint de 10 personnes qui ont le droit de voir toutes mes photos. Et après, j'ai un cercle plus grand, un autre cercle plus grand. Et le dernier cercle, il voit rien de ma page. Et c'est comme ça que je gère. Donc,
Bah ça, c'est très bien pour les gens qui prennent le temps de le faire. Mais ce que disait Zuckerberg il y a, encore lui, il y a, je crois, un ou deux mois, il disait, mais malheureusement, les gens n'ont pas envie de s'emmerder à gérer des listes, quoi. Ouais, personne ne fait les listes. Toi, là, peut-être, mais...
Là, t'admires peut-être Facebook, mais je trouve que, c'est ce que je disais, c'est très compliqué. Ils ajoutent des nouveaux trucs. Ouais. Tu vois, par rapport au slickness, ce mot que j'aime bien, enfin, la sobriété de Twitter, et je trouve que le nouveau Twitter, ils ont pas trahi leur notion de sobriété. À côté, Facebook a un côté usine à gaz.
C'est sûr.
Où c'est fatigant. Moi qui n'y vais qu'une fois toutes les deux semaines, ou de temps en temps, un peu plus maintenant qu'on a un groupe, No Watch, mais je trouve que c'est lourd et j'ai pas envie de m'y intéresser, j'ai pas envie d'apprendre à l'utiliser.
Je suis d'accord.
M'intéresse pas.
Et pour dire les choses clairement, j'admire énormément les choix qu'a fait Facebook et sans doute Zuckerberg à travers eux, mais je suis pas super fan de Facebook. J'aime bien pour certaines choses, mais je passe pas mes journées dessus, quoi.
Ouais, il y a quelqu'un qui disait dans la chatroom d'ailleurs, moi je sais même pas comment on crée ces groupes. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie un peu de l'opacité de Facebook. C'est-à-dire que j'ai passé une bonne dizaine de minutes à trouver le bouton pour créer le groupe sur ma page, et c'est pas toujours évident, quoi.
C'est vrai, mais d'un autre côté, moi je vois quand je mets une mise à jour sur Twitter, bah ça passe, et puis au bout de 10 minutes, il y a plus rien, tu vois, parce que les flux de tout le monde sont hyper peuplés. Sur Facebook, tu mets une mise à jour et les gens te répondent, et puis tu peux aller répondre aux gens. Il y a une vraie interaction, quoi.
Ouais, c'est pas le même type de communication. Ouais,
ouais. Donc il y a une valeur aussi sur Facebook. Facebook.com/notepatrick.
Non, mais je termine juste. Je pense qu'ils ont raison de libérer nos données, permettre peut-être à d'autres applications de.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Utiliser des données Facebook. Moi, je sais que j'ai juste retrouvé un plaisir à Facebook, c'est de lire les statuts Facebook dans Flipboard, l'application sur iPad.
Ah ouais.
Là, ils nous bassinent avec Flipboard. Oh,
ouais, je suis fan de Flipboard, Jérôme. J'aime Flipboard.
C'est génial. Quelque chose, mais je suis fan du rendez-vous tech aussi.
Ça va alors.
Non, mais voilà. Moi, ce qui m'éclate dans Facebook, c'est de voir des photos que des potes ont pris et tout. Et avec Flipboard, voilà, c'est devenu un espèce de journal de mes amis. Et ça, j'aime bien. Et j'ai plus besoin d'aller sur Facebook, du coup. Parce que
je trouve que leur application
du web, elle est naze, quoi.
Je t'embête un peu, mais moi, j'utilise beaucoup Flipboard pour Facebook et pour Twitter, d'ailleurs.
Exactement, aussi.
Ouais.
Ouais, je remercie Jérôme qui m'a fait découvrir Flipboard. C'est absolument génial et indispensable sur son iPad.
Donc, le message, c'est écouter Upload.
Oui. Plutôt deux fois qu'une.
Et d'ailleurs, Upload, on va peut-être se contenter de dire à nos fidèles auditeurs, on voulait parler de Windows Phone 7. Bon, on va en parler rapidement, mais on en a parlé un petit peu plus dans le Upload qui sort mercredi 13. Oui. N'hésitez pas à aller écouter ça aussi si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus.
Patrick, ne faisons pas un copier-coller de ce que nous avons fait dans Upload.
Oh, private joke. Vous comprendrez quand vous écouterez. Donc en fait, Windows Phone, vous le savez, on en a déjà parlé ici aussi, Windows Phone 7, c'est le nouveau système d'exploitation de Microsoft qui est très très prometteur et qui devra être disponible donc le 21 octobre avec je crois une trentaine de combinés différents je vais pas tout refaire sur Windows Phone 7 mais
ils en ont parlé ce soir au journal de France 2, c'est pour te dire l'offensive marketing est violente.
Ah bah,
quoi.
C'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est clair qu'il y a toute la force de Microsoft derrière. Et Windows Phone 7 va être un des acteurs. C'est clair, je veux dire, à partir du moment où il sort, il y a l'iPhone, enfin iOS, Android et Windows Phone. Donc maintenant, il y a un troisième acteur, ça y est. Il n'y a même pas de discussion, est-ce que ça va être possible ou pas. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et en plus de ça, l'interface est très bien reçue par les amateurs de téléphones et il y a une vraie innovation là-dedans. Donc c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément de Microsoft. Et je pense que nous tous ici, on est impatients de mettre nos mains dessus et de pouvoir l'essayer. En tout cas, je sais que Jérôme et moi, c'est le cas.
Ouais. J'ajouterai juste un truc à ce que j'ai dit dans Upload, ça obligera à suivre les deux podcasts. C'est vrai que j'ai été très impressionné par l'approche philosophique de Windows Phone. Que ça soit Android ou iOS, on a une approche très... J'ai quelque chose à faire, je cherche mon application et je le fais. Et si je dois faire autre chose, j'ouvre une autre application. Là, on sent que leur désir, c'était... j'ai quelque chose à faire et les applications s'ouvrent par rapport à ce que j'ai à faire. Alors c'est un peu ambitieux, ça marche pas toujours, mais j'ai trouvé que l'interface était très utilisateur et beaucoup moins app. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je trouve que apps disparaissent un peu dans l'interface et que finalement on se concentre sur les tâches. Et ça, j'ai trouvé ça une démarche intéressante, notamment au niveau professionnel. Je pense que BlackBerry va être sérieusement concurrencé, Android aussi, enfin tout le monde, mais en tant que pro, j'ai trouvé que c'était très pro comme approche.
Non, c'est certainement intéressant et à mon avis, le problème, c'est que imaginons que demain, aujourd'hui, il y a Facebook et Twitter, disons qu'il y a autre chose qui arrive demain, pour l'intégrer au système, c'est plus compliqué que sur un iPhone ou un truc comme ça où il suffit de rajouter une app. Mais bon, en même temps, il y a des apps aussi sur Windows Phone 7. Mais cette intégration sera plus dure à faire. Et je rebondis juste sur ce que dit Lionel G dans la chatroom. Il dit « Moi, il faut jurer de rien. Souvenez-vous des succès prévus, Wave, Zune, etc. » Wave n'a jamais été un succès prévu, c'était une sorte de bestiole bizarre à laquelle tout le monde s'est intéressé, et Zune, c'est un excellent système, mais personne n'a dit que ça serait un immense succès. Je veux dire, c'est un très bon lecteur MP3, mais ce que tout le monde disait au moment où il est sorti, c'est que c'était un très bon lecteur MP3 pour venir concurrencer les iPod de 2006, quoi. Donc c'était quelque chose d'encore délicat. Là, le Windows Phone 7, c'est vraiment quelque chose de compétent, et de toute façon ils vont en vendre beaucoup. Maintenant, est-ce que ça va avoir un succès sur le long terme, on ne sait pas, mais ils vont en vendre énormément, ils ont une énorme force de frappe derrière. Je conclue en demandant à David ce qu'il pense de Windows Phone. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire.
Je viens de poster une image que j'ai cherché vite fait sur Google Images, mais je trouve que l'interface de Windows Phone ressemble furieusement à ce qui avait été designé dans 2001, l'Odyssée de l'espace, pour les écrans des ordinateurs. Revoyez les images de 2001, et c'est des carrés comme ça de couleurs avec des lettres très épurées, et graphiquement parlant, Jérôme saura de quoi je parle, ils ont complètement pompé l'esprit de 2001, ce qui pour moi est un hommage pas négligeable. Je sais pas, je suis... c'est 4% du marché aujourd'hui Windows sur les mobiles, 15% pour l'iPhone, on va dire en gros 17% pour Android et 40% pour ce qui reste de Nokia. L'avenir est super incertain. Aujourd'hui, on peut croire que Google et Apple, on le vend en poupe dans le domaine. Je pense pas que Microsoft puisse renverser la vapeur uniquement sur le software. Il va falloir qu'il s'allie un hardware de qualité, parce que mine de rien, le software de Windows 7, ça reste quand même de la cosmétique. Si derrière ils ont pas le hardware qui va leur permettre de créer et les applications et les usages et la fluidité et tout ce qui va avec un téléphone moderne, ça servira à rien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais...
Si, si, complètement. Mais c'est là que c'est très important de comprendre la stratégie de Microsoft. Quand Microsoft veut quelque chose, ils y vont à fond et ils vont faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et en l'occurrence, ils ne font pas que l'OS. Ils ont aussi énormément de partenaires chez les constructeurs. Ils ont chassé les développeurs d'app comme des lions dans la savane, quoi. C'était invraisemblable. Ils sont allés parler à tous les développeurs à succès sur iPhone et sur Android. D'ailleurs, ils ont fait une petite bourde avec Angry Bird. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ils sont allés faire la chasse partout. Enfin, leur stratégie est... vraiment presque sans faute. Donc peut-être que ça ne va pas fonctionner. Moi franchement, je pense qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine. Je dis pas qu'ils vont tout nettoyer, hein. Ce que je dis, c'est qu'il y aura trois acteurs, Apple, Google et Microsoft. Et ça sera l'un des trois acteurs. Dans quelle quantité, je sais pas, mais...
Après, je comprends, en tant qu'utilisateur, il y a des moments où on dit « Mince, il va falloir encore choisir, encore un nouveau. Est-ce qu'ils peuvent pas se mettre d'accord qu'on ait une plateforme, je sais plus quoi choisir ?» Mais ce qu'il faut toujours se rappeler dans ces moments-là, c'est que la concurrence, ça a quand même du bon. Ça pousse tout le monde. L'iPhone se serait endormi s'il n'y avait pas d'autres smartphones qui étaient arrivés. Android peut s'endormir aussi. La concurrence, quand même, à long terme, même si c'est un peu déstabilisant à certains moments, c'est toujours quand même l'utilisateur qui gagne à la fin.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle d'utilisateurs, contrairement à ce que disaient les rabat-joie dont j'avoue très honnêtement et très humblement que je faisais un tout petit peu, dont je faisais un tout petit peu partie au début, eh bien, il se trouve que l'iPad est le produit de consommation le plus vite adopté de l'histoire des produits de consommation. On a eu les chiffres récemment. Il est adopté à un rythme, je ne sais plus combien, 5 ou 7 fois plus rapide que le DVD, qui était déjà le produit le plus rapidement adopté. Et on en parlait dans Upload, justement. Bon, on ne va pas faire un copier-coller, comme dirait Jérôme. Mais c'est quand même surprenant, parce que l'iPad, il y a un an, on ne connaissait même pas son existence. On ne savait pas à quoi ça servait. Et les rares qui disaient une tablette, ça pourrait peut-être sortir, se disaient, mais ça va servir à rien. Donc, c'est vraiment surprenant, ce rythme d'adoption. Et ça, non seulement ça n'a pas l'air de se ralentir, mais en plus, c'est aujourd'hui la ruée vers l'or pour tous les constructeurs de produits informatiques. Vers les tablettes. Tout le monde se met à faire des tablettes au même titre que quand l'iPhone était sorti. Un an plus tard, tout le monde était en train de faire des smartphones nouvelle génération, machin. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Steve Ballmer, le président de Microsoft, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce fier personnage qui danse sur les scènes en disant des mots gentils aux développeurs, vous saurez de quoi je parle si vous avez vu cette vidéo. Donc Steve Ballmer annonçait il y aura énormément de tablettes qui auront des systèmes, des OS Windows pour Noël. Donc même Microsoft est en train de se lancer là-dedans. Enfin, pour le coup, je crois que personne ne peut nier qu'Apple a créé un marché qui a un dynamisme phénoménal. Et même moi, enfin, personne n'aurait pu prendre ce pari à l'époque, quoi. Même Apple, je crois qu'ils n'auraient pas pensé que ça irait aussi bien, aussi vite.
Voilà. Je ne sais pas, Jérôme, tu veux dire quelque chose là-dessus ?
Oh, moi, j'ai toujours quelque chose à dire.
Mais parce que... c'est vrai que je suis ébahi aussi par le succès aussi fulgurant de l'iPad. Par contre, contrairement à Patrick, j'étais pas du tout sceptique. Et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure à propos de Mark Zuckerberg. Je pense que pareil, Steve Jobs est un type qui sait sortir les produits qu'il faut au bon moment. C'est-à-dire que, bon, d'après ce qu'il a dit lui-même, l'iPad, il l'avait dans les cartons avant même l'iPhone. Et en fait, c'est la base de ce qu'il a développé sur l'iPad qui a servi à faire l'iPhone. Et ils ont gardé de côté la tablette en se disant, c'est pas le bon timing, on va attendre le bon moment pour la sortir. Si c'est le cas, bravo, si c'est vraiment le cas, c'est extraordinaire parce qu'ils ont totalement réussi leur coup. Et j'avoue être un iPad addict. Et depuis que j'ai cette petite machine, mon ordinateur prend la poussière. Je ne l'allume plus. Je ne me sers plus que de l'iPad pour consulter mes mails, eBay, évidemment Flipboard, Facebook et Twitter, etc., etc. Mon ordinateur prend la poussière et merci l'iPad qui est très simple. Oui,
alors moi je vais être j'interviens juste, je vais être un petit peu moins c'est faux de dire que Apple a toujours su sortir les produits au bon moment. Je vais pas faire la liste des échecs d'Apple, mais entre le Newton, la Pimpin et l'Apple TV, ils ont
la Pimpin.
Oui, mais alors je excuse-moi Jérôme, c'est juste pour te
c'était
dire
c'était pas Steve Jobs.
Voilà, oui, c'est depuis Steve Jobs ça a changé
Ouais, enfin l'Apple TV c'est Steve Jobs quand même, hein. Et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'ils ont un formidable esprit de synthèse et effectivement une bonne observation du marché, parce qu'ils ne font pas forcément le produit qui leur est demandé, mais le produit qui va plaire. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais s'ils avaient écouté les techniciens, ce qu'on voulait, on voulait de l'USB dans une tablette, on voulait que ça soit un ordinateur tablette, et ils ont pas hésité à faire certains compromis, on les a flingués pour ça, on peut le dire. L'iPad avait une super mauvaise réputation dans notre communauté avant sa sortie du fait de ses limitations, et après utilisation, maintenant que j'en ai une, ils ont eu raison de faire ces choix-là. C'est vrai que la tablette, c'est pas Apple qui l'a inventé, y a tout un tas de choses. C'est pas Apple qui l'a inventé, mais ils savent faire des choix et parfois des compromis qui font des produits qui marchent bien. Et juste pour terminer sur la tablette, juste pour terminer sur la tablette, je pense que l'iPad, en dehors de l'iPad et d'Apple, moi je suis encore plus optimiste que vous. Je pense que c'est la troisième révolution informatique. L'ordinateur sort enfin des ordinateurs.
C'est ce qu'on a dit. Dès qu'on a essayé la machine, on s'est tous tournés dans cette direction.
Moi, je vois les rapports de personnes qui n'arrivent pas à envoyer un mail, le rapport qu'ils ont avec l'iPad et n'importe quelle autre tablette qui va arriver derrière. C'est là où j'aimerais dépassionner le débat. Je crois que là, on est vraiment en train d'arriver à l'informatique grand public qu'on nous avait annoncé depuis très très longtemps. Et on se retournera dans quelques années et je pense qu'on aura vécu un truc aussi important que la sortie du premier PC, quoi.
Moi, je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur mon blog patrickbeja.com le 31 janvier 2010, donc il y a presque, il y a 9 mois, qui s'intitulait, c'était en anglais, Apple's New Concept Easy Computing, où je disais exactement ce que tu es en train de dire, Jérôme. Donc effectivement, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est une autre catégorie d'ordinateurs qui a été créée au moment de la sortie de l'iPad.
C'est Apple qui a fait le premier, mais bon.
Est-ce que c'est pas tout simplement l'évolution aussi, comme le disait Steve Jobs, des netbooks qui sont devenus logiquement tablettes? Et moi, j'attends vraiment ce que va faire la concurrence. Je sais que Cédric a déjà eu une Galaxy Tab entre les mains et ça a l'air. Tu es un chanceux. Tu as pu aller à la dernière Mobly, ce que je n'ai pas.
Moi j'y étais et j'ai même pas mis les mains sur le Galaxy Tab ni sur les Windows Phone 7. Pour conclure, pardon, vas-y Dave.
Oui, non, mais c'est pour dire que il y a des produits super excitants qui arrivent. Je veux pas être rabat-joie et dire que c'est pas forcément ceux à base de Windows ou de produits Microsoft qui m'enthousiasme le plus, mais par contre tout ce qui tourne autour de Android et des tablettes même peut-être un peu plus petites, 7 pouces voire 5 pouces, ça me paraît être des choses vraiment passionnante et vraiment intéressante pour l'avenir.
Alors Jérôme, le Galaxy Tab, t'en as pensé quoi ?
Écoute, j'ai trouvé que c'était un produit vachement intéressant.
Ceux qui ne savent pas, le Galaxy Tab, c'est une tablette 7 pouces de Samsung qui est sous Android.
Je vais être tout à fait objectif, j'avais vraiment de gros doutes sur la dimension, le 7 pouces. Pour moi, c'est une dimension bâtarde, c'est un gros smartphone ou une petite tablette. Ça m'a plutôt convaincu. Finalement, c'est un format pas mal. J'y vois presque encore un nouveau device en plus de du cahier numérique qui est l'iPad.
Oh là là, on n'en finit plus là.
Ouais. Ben non, mais ça prouve qu'on. Je crois que tout le monde va trouver le truc qui lui convient. Je crois que l'iPad ou n'importe quelle tablette, ça a ça de différent d'un ordinateur, c'est que c'est une fois qu'on a trouvé ses usages, et ils sont souvent très personnels, qu'on comprend son intérêt. Et je pense que le problème de taille, ça va vraiment dépendre de ta vie. Je donne un exemple sans être sectaire, mais t'es une femme, t'as un sac plus petit, l'iPad c'est un peu trop grand pour balader ton cahier numérique, donc tu vas prendre un calepin numérique un peu plus petit. T'es un écolier, t'auras peut-être plus un format grand. Voilà, donc les tailles, ça va être un peu les utilisations. Et la tablette se définit vraiment par rapport aux usages que t'en fais, encore plus que les ordinateurs ou que les smartphones, je trouve.
Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la taille, c'est en fait très important.
Ah, la taille, ça compte.
Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, je peux rajouter une petite remarque sur les écrans 7 pouces. La plupart des tablettes qui ont cloné l'iPad depuis le début de l'année chez nos amis chinois, que l'on peut retrouver sur des sites comme DHgate ou Light in the Box, ce genre de choses, sont des écrans de 7 pouces. Alors, ils n'ont pas le hardware de la Galaxy Tab parce que, alors c'est assez marrant parce que chez les Chinois, les machines clonées sont toutes basées à peu près sur le même hardware. Mais il y a quand même certaines tablettes. Alors, il faut faire bien attention, mais aux alentours de 150€, il y a certaines tablettes 7 pouces qui tournent sous Android 2.1, pas 2.2. Et c'est déjà pas mal évolué, quoi. Donc, ça peut être amusant. Moi, je suis toujours tenté. J'aimerais bien en commander. Alors, à un moment, j'avais commandé quelques petits lecteurs multimédia en Chine et j'avais été assez déçu, surtout de la...
Bah, pas tellement... Non, je te crois pas. Alors là, vraiment...
Attends, pas tellement du hardware, qui sont souvent des très chouettes petites machines. C'est le software qui pose problème. C'est-à-dire que le soft qui est programmé... Bah,
c'est-à-dire que le mandarin, c'est difficile à lire.
Ouais, non seulement ça, mais en plus, les interfaces sont un peu laborieuses, elles sont pas très bien programmées. Mais honnêtement, il y a des hardware, chez Ramos, par exemple, qui sont impressionnants de qualité et de finition. C'est souvent le software qui pose problème. Donc, quand on pense à Android, on se dit que finalement ils vont peut-être réussir à trouver un Android, un software de qualité, en plus de leur hardware qui est déjà pas mal.
Donc vous l'avez entendu, hein, David vous recommande chaudement d'acheter un clone d'iPad sur un site taïwanais et vous ne serez pas déçu. Vous pouvez lui écrire si vous avez quelque chose à...
Quand j'étais à Bangkok, je suis allé dans le supermarché de la contrefaçon. Alors c'était plein de d'iPad des contrefaçons. Et alors c'était marrant, tu les allumais, t'avais une interface en cristaux liquides genre Donkey Kong dans les années 80 avec le design qui était pareil autour. C'était assez drôle.
Bon, vous savez ce qui va nous amener ce qui va nous ramener dans les années 80, mais dans le futur qu'on avait dans les années 80.
Bah oui.
Vous savez pas ? C'est les voitures qui se conduisent toutes seules.
Exactement.
Parce que David voulait nous parler de cette réalité, en fait, dont on a entendu parler il y a quelques jours à peine.
Oui, il y a eu une annonce ce week-end. En effet, ça a défrayé un peu la chronique Internet. C'est l'annonce qu'a faite Google de leur projet de créer une voiture entièrement automatisée au niveau de la conduite. Et ça, je dois dire que, enfin, ça m'a non seulement interpellé, mais quand on lit les articles qui ont été faits sur cette expérience, ils en sont déjà assez loin, puisqu'ils ont fait rouler un certain nombre de voitures pour Street View, c'est-à-dire, arpentant les routes de Street View, et ils ont fait plus de 225 000 km en voiture entièrement automatisée. Alors, les voitures n'étaient pas sans conducteur, il y avait quelqu'un dedans. Pour faire style, je fais semblant de conduire, je pense, mais les voitures conduisaient toutes seules.
En fait, selon la loi américaine, il y avait dans le véhicule, les aides à la conduite sont autorisées du moment où il y a un conducteur qui peut interrompre l'aide à la conduite, entre guillemets, en appuyant sur le frein ou en changeant de direction, etc. Donc la voiture était entièrement automatisée. Sauf si le conducteur appuyait sur le frein.
Exactement.
Mais donc c'était une vraie voiture automatisée, quoi.
Totalement. Alors là où c'est pas une vraie nouveauté, hein. On sait faire rouler des voitures de manière autonome depuis déjà un certain nombre d'années avec des radars, des systèmes de navigation embarqués. En combinant plusieurs technologies, on savait faire rouler des voitures toutes seules. Ce qui est très intéressant dans le cas de Google, c'est que là on a une multinationale qui est extrêmement puissante qui s'intéresse à ce projet. Et on sait très bien comment ça se passe passe en matière de technologie. On est en train de le vivre en ce moment même avec la 3D. Quand un consortium, quand un certain nombre de gros opérateurs dans le domaine des technologies a décidé de vous vendre un nouveau produit, rien ne les arrête. On se souvient, il y a donc maintenant, on va dire 15 ans, enfin 13 ans, quand on a voulu nous imposer le téléphone portable au travers de ce qu'on a aujourd'hui. Ça a été très vite, hein, l'installation des réseaux de téléphone de GSM. Ça s'est fait en un an et demi, et tout a été en place. Et on nous a vendu des abonnements, des téléphones. Au début, c'était des gros... moi, j'ai eu mon premier Bouygues avec la batterie qui faisait 2 kilos. aujourd'hui, j'ai un iPhone. Voilà, donc en 10 ans... on nous a tous convertis au téléphone portable. Aujourd'hui, vous allez acheter un nouvel écran de télévision, à peu près 50% de l'offre qui sort aujourd'hui en magasin va permettre de s'adapter à la 3D. Et on va vous vendre de la 3D. Et franchement, si vous
donc,
avez...
ce que tu dis, c'est que l'année prochaine, c'est les voitures qui se conduisent toutes seules, c'est ça ?
J'attends le moment où, justement, les entrepreneurs vont se mettre d'accord, et un opérateur comme Google, c'est quand même pas anodin, quoi, c'est une des plus grosses entreprises dans le monde, vont décider de nous le vendre réellement. Et aujourd'hui, ils ont la technologie. Quand est-ce que ça va arriver ? Et moi, franchement, je sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais je suis pour à 100%, quoi.
Moi, je vais la faire rapide. Je déteste conduire, donc la voiture qui me conduit tout seul, c'est un rêve, même si je préférerais un chauffeur parce que c'est plus classe. Mais, et l'autre truc, c'est que par contre, quand je vois les erreurs de 15 mètres que fait Google Maps sur mon iPhone, j'aurais un peu peur d'une voiture qui se dirige avec.
Alors,
nombre de fois que je suis sorti du virage en voiture quand je faisais le copilote avec Google Maps, ça fait un peu peur quand même.
Alors, ce qui s'est passé, il y a eu un accident apparemment. C'est en fait la voiture de Google qui était arrêtée à un feu rouge et une autre voiture lui est rentrée dedans. Donc, c'est pas dû au pilotage automatique.
Ouais. Et il y a eu aussi un moment, ils ont dû freiner parce que le.
Ça
y
a avait fait ding un... C'est un jeu de mots.
À un moment, ils ont dû freiner parce qu'il y a un vélo, un conducteur à vélo qui a grillé un feu rouge, donc la voiture l'a pas repéré, etc. Mais le consensus, en fait, c'est que ce type de système n'est pas encore complètement au point, encore que avec les démonstrations de Google, la technologie semble avoir fait un bond en avant en 2 jours. Mm-hmm. Mais le consensus sur tous les experts, c'est que ce type de technologie permettrait d'avoir une conduite beaucoup plus sûre et beaucoup plus fluide, ce qui veut dire qu'on se débarrasserait de bon nombre d'embouteillages. Donc, elle n'aurait que des avantages.
Oui, oui.
Et le gros handicap à l'implémentation de cette technologie, c'est le fait que les gens seraient réfractaires à l'idée de se laisser conduire par leur voiture et qu'a priori, ils ne voudraient pas... enfin, ils auraient peur ou qu'ils voudraient continuer à conduire. Et donc, le frein ne serait pas a priori technologique, mais beaucoup plus psychologique.
Mais ça,
donc,
c'est la même chose que les générations de nos parents ou de nos grands-parents n'arrivent pas à aborder Internet sans une certaine angoisse. Hein. Je parle en connaissance de cause et je pense que les gens y verront tout de suite l'avantage si on leur propose une voiture qui se pilote tout seul et qui peuvent le matin partir au travail, s'asseoir dans la voiture, ouvrir un journal et boire un café et la voiture se conduit toute seule. Moi, je pense qu'ils vont tout de suite comprendre l'intérêt que ça peut avoir.
C'est sûr, c'est sûr. Moi, je serais en tout cas.
Mais quand même, la téléportation, moi, je mettrais plus mes billes là-dedans. Ça, c'est le vrai rêve.
Écoute, le jour où Google décidera d'annoncer qu'ils ont déjà une technologie de téléportation, on en parlera. Mais là, on n'y est pas encore tout à fait. Il faudra attendre encore quelques mois.
Ouais, je pense. Voire quelques années, on va dire.
Peut-être. Bon, bah écoutez, vous savez en tout cas ce qui ne va pas attendre quelques années, c'est notre sponsor Numéricable qui va vous réconcilier avec lui, quelle que soit votre opinion sur quelque sujet technologique que ce soit dont on a parlé aujourd'hui ou pas, parce que ils veulent vous faire gagner plein de choses. Et ça, c'est un truc qui ne se refuse pas. Notre sponsor organise un grand concours du 1er au 31 octobre. Donc, on est déjà le 11 aujourd'hui où on enregistre. Donc, allez-y vite. Les jours s'écoulent déjà bien trop vite. Du 1er au 31 octobre, il y a un grand jeu organisé en partenariat avec NoWatch.net dans lequel vous pouvez gagner une Xbox 360. Des jeux Final Fantasy 13, il y en a 5, et des coffrets Naruto Shippuden, pardon, je vais le faire à la japonaise, Naruto Shippuden volume 8, et il y a également 5 coffrets Naruto, et tous ces lots vous sont offerts par Numéricable et Game One. Et pour participer à ce tirage au sort, eh ben, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de tester votre éligibilité à la fibre. Parce que comme vous le savez, Numéricable, non seulement c'est un fournisseur d'accès Internet que nous, on aime beaucoup, mais qui en plus vous propose la fibre aujourd'hui. Quand on parle des technologies de demain, donc qu'on nous promet depuis des années, ben, eux, ils l'ont déjà disponible pour bon nombre d'entre vous. Et si vous voulez tester, si vous êtes éligible, si vous êtes déjà raccordé à la fibre, vous allez sur le portail nowatch.net. Je vous explique la démarche parce que la fibre et le concours, ça va ensemble. Vous allez sur le portail nowatch.net ou nowatch.tv et il y a là une bannière Numéricable. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page du concours. Sur cette page, il y a un lien vers le site qui vous permet de tester votre éligibilité. Donc vous rentrez votre adresse, tout ça, vous allez voir si vous êtes éligible à la fibre ou pas. Et vous revenez ensuite sur la page du concours, et là vous allez entrer le fait que vous soyez éligible à la fibre ou pas, et votre adresse email, et on tirera les gagnants au sort à la fin du mois, et ils seront prévenus par email et on citera leur nom dans l'émission. Et chose importante à préciser, le fait que vous soyez éligible à la fibre ou pas ne change pas votre possibilité de participer au concours. Donc c'est très simple. Vous rentrez votre adresse email, vous dites si vous êtes éligible ou pas, et vous êtes entré dans le concours pour gagner tous ces merveilleux lots. Et donc, non seulement c'est un moyen pour gagner ces merveilleux cadeaux, mais c'est aussi l'occasion de découvrir les offres Numéricable, parce que oui, c'est quand même aussi le but, c'est de vous faire découvrir ces offres. Et bon, je fais le malin, je rigole, et je vous explique comme Numéricable, c'est nos amis et c'est notre sponsor, mais il y a quand même une offre vraiment intéressante derrière, c'est la NC Box Power, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, avec le meilleur d'Internet, avec la fibre, donc, qui vous propose une connexion à 100 mégas, la télé et la téléphonie, tout ça à 29,90€ par mois au lieu de 39,90€ pour les 4 premiers mois. Et les frais d'ouverture vous sont offerts aussi, ce qui vous fait une économie potentielle de 150€, ce qui n'est pas rien. Donc non seulement ils vous offrent des cadeaux, mais en plus ils vous font économiser de l'argent. Moi je dis au moins ça se tente quoi.
Ouais.
Il n'y a pas de raison de se le refuser.
Moi je vais quitter Free je pense. Gabriel, si tu m'entends.
Ouais. N'oubliez pas de passer toujours par le portail nowatch.tv avant d'aller chez Numéricable, parce que nous, ça nous rend service aussi, comme ça, voilà.
Bah oui,
Ils savent que vous êtes passé par chez nous, et si vous voulez supporter un petit peu Nowatch, faites ça donc.
Supporter Nowatch, c'est l'anglicisme terrible quoi. Si vous voulez soutenir Nowatch, parce que vous supportez déjà Nowatch suffisamment longtemps.
Ils ont déjà du mal à nous supporter.
L'audience doit supporter.
Désolé, voilà, je suis un peu fatigué.
C'est pas grave, on te comprend Jérôme, tu as dû me supporter pendant l'enregistrement d'Upload il y a une heure.
C'est toujours un plaisir Patrick, tu le sais, un plaisir à sans cesse renouvelé.
Bon, donc on remercie Numéricable, notre sponsor, et on enchaîne donc sur la suite des news et des rumeurs sur lesquelles on va aller un petit peu plus vite. Ouais. La première chose, je voulais parler de Apple et de Mirror Worlds, Apple a été condamné à payer 625 millions d'euros à Mirror Worlds pour une histoire de copyright, pas de copyright, de patent,
de copie
de patent. Oh là là, j'y arrive plus. Chatroom, aidez-nous. Un patent, c'est... Bon, je sais plus. Bref.
Brevet.
Merci. Ouf. Ouais. C'était difficile. Donc pour une histoire de brevet, mais bon, à la limite, on s'en fout. Ils ont contre-attaqué et ça va encore rester pendant.
Il y a quand même juste un petit truc à en dire par rapport à cet article, c'est que c'est une des condamnations les plus lourdes en matière de juridiction aux États-Unis, puisque 625 millions, c'est la seconde plus lourde, le plus lourd verdict en 2010 et le quatrième plus gros verdict de sur des histoires de brevets dans l'histoire des États-Unis. Ouais. Donc, c'est quand même pas anodin. Hein. Ça représente une lourde charge.
À côté de Carviel, ils peuvent aller se rhabiller.
Hein, oui, ça c'est sûr.
Nous, on a enfin, fleuron national. Hein.
Mais il est c'est bizarre ce truc parce que bon, c'est une société qui a été Mirror World, c'est une société qui a été fondée par un professeur de l'université de Yale. Mais c'est surtout que leur brevet, ça touche à Spotlight, à Time Machine et à Coverflow. Et ces trois trucs-là sont tellement différents que je comprends pas comment ils peuvent se retrouver dans une société ou dans une même technologie. Enfin, j'y vois pas très clair, mais
là, je t'avouerai je ne suis pas spécialiste.
Ouais, ouais. En tout cas, Apple a évidemment fait appel et ça. Enfin, ce qu'ils disent, c'est que la première chose qu'ils disent, c'est que ils veulent que tout ça soit réuni en une seule condamnation parce que c'est 208 millions par technologie. Et ils disent, mais c'est pas possible, c'est la même technologie, donc il faut qu'on paye une seule fois. Si jamais on doit payer, on payera qu'une seule fois. Vous pouvez pas nous demander trois fois. Donc déjà, ils veulent pas payer, mais ils disent si jamais vous voulez qu'on paye, on payera qu'une fois. Donc c'est vraiment la même technologie qui couvre les trois trucs. Je comprends pas bien. Mais enfin bon, les histoires de brevets, de toute façon, aux États-Unis, c'est tellement n'importe quoi.
Ouais.
Allez, on va pas revenir là-dessus. Deuxième article dont voulait nous parler Jérôme, c'est un article de Wired, qui est un journal... papier et électronique émérite sur le monde technologique aux États-Unis, qui dit que pour contrer le problème Apple, entre guillemets, il suffirait que Microsoft rachète Adobe. Et ça réglerait le problème pour Microsoft et Adobe. Est-ce que tu peux nous résumer? Ah, ça y est, tu re-silonnes, mon pauvre. C'est marrant parce qu'il silonne et il fait l'écho. Donc,
Si je silonne une deuxième fois, c'est qu'on est en train de faire une émission extrêmement longue. Donc,
ça va être de ma faute encore.
Je vais faire très vite. Moi, je me suis intéressé à ça parce que Adobe, c'est une marque de logiciels. Depuis mes débuts de carrière, je travaille sur des logiciels Adobe.
Moi aussi.
C'était intéressant de voir Microsoft Adobe qui eût cru qu'on ait ce genre même de rumeur un jour. Mais c'est vrai qu'en y réfléchit, c'est très très cohérent. Adobe est attaqué sur un de ses produits majeurs qui est le Flash, sur la mobilité du Flash. Microsoft cherche à marquer des points dans le monde de la mobilité. Apple n'arrête pas de sortir des concurrents à Adobe dans sa ligne de logiciels, que ça soit iLife ou dans les domaines pro des Final Cut Pro ou des Lightroom ou des Aperture.
Oui, mais en quoi est-ce que le fait que Microsoft les rachète?
Alors voilà, parce que Microsoft, par contre, s'est toujours planté sur tout ce qui était logiciel d'édition artistique. Toutes leurs tentatives sont des catastrophes. En prenant Adobe, ils pourraient avoir des espèces de Photoshop déjà intégrés dans. Tu vois, la suite iLife qu'il y a sur Apple. Microsoft pourrait faire la même avec les produits Apple en les travestissant un petit peu.
Adobe,
en les travestissant un petit peu. Ça s'appellerait pas Photoshop, mais Windows Photo
Maker.
Ou des versions light. En plus, on a bien vu ces dernières années, et d'ailleurs j'ai suffisamment critiqué Adobe pour avoir fait ça, de vouloir faire des versions de leur logiciel grand public. Donc on sent qu'il y a une vraie logique là-dedans. Je serais pas surpris que ça arrive, même si quelque part c'est profondément choquant, parce que pour moi Adobe c'était des logiciels indépendants, c'était les grands concurrents des grands concurrents. Donc c'est un peu bizarre de voir tout ça, quoi.
Voilà. Ouais, moi je t'avoue que je ne suis pas convaincu.
L'article dit clairement que c'est pas dans les choses envisageables, ni pour le moment, ni pour un avenir proche. C'est juste une supputation, et que financièrement, évidemment, Microsoft a largement les moyens de se racheter Adobe. Moi je pense que je veux pas encore une fois me faire l'apôtre d'Apple, mais je pense que Jobs a raison de dire que Flash est une antiquité et que ça ferait bien de disparaître. Maintenant, je vais me faire hurler dessus par les développeurs Flash qui sont dans la chatroom, qui vont me détester.
Oui, j'ai eu mon lot d'engueulades aussi quand j'ai tenu ce discours. Mais
le problème, c'est que Flash, ça n'arrive à fonctionner correctement que sur des bécanes qui tournent bien, en mobilité pour l'instant, et même la Galaxy Tab, qui a l'air d'être une tablette surboostée, c'est pas encore ça. Alors,
Oui, mais bon, ne ne nous écartons pas trop de la question qui est, est-ce que ça aiderait Microsoft et Adobe de travailler ensemble? Moi, je suis pas convaincu que ça les aide vraiment.
Ouais, attends, comme le dit la chatroom, bon, ils ont Silverlight Microsoft, ils ont du mal. Une fusion Silverlight Flash pour s'apporter des trucs et essayer de concurrencer finalement ce qui se passe avec l'HTML5, j'en sais rien, je fais de la broderie là.
Moi je crois que cet article, c'est une sorte de pierre lancée dans l'eau au milieu de l'océan qui ne veut pas dire grand-chose, enfin bon, je l'ai pas lu et Wired, c'est pas des imbéciles, donc.
Ouais, mais c'est les spécialistes de ce genre d'article, justement, comme tu dis, à lancer un pavé dans la marde, mais bon, c'est la marde de Wired, quoi. Donc ils sont un peu dans leur chapelle et dans leur spéculation, qui ont pas
réel. C'est leur fond de commerce, ouais.
Ouais, c'est leur fond de commerce, ouais.
Bon, bref, Jérôme, tu fais pas recette avec ton article.
Non, mais on verra.
C'est intéressant de voir comment. Moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est de voir comment évoluent finalement ces marques qu'on croyait à la fois indétrônables et immuables. De voir à quel point rien dans le domaine des technologiques n'est jamais acquis. Et c'est pas parce qu'il y a des marques dominantes à des moments que ça changera pas demain. Et c'est fascinant de voir ça, quoi.
C'est certain. Et d'ailleurs, à propos de marques qui changent et qui évoluent, dernière nouvelle du jour, c'est un gros changement chez Twitter qui est le changement de leur président. En fait, leur président jusqu'à il y a quelques jours, c'était, ou je ne sais pas si le changement s'est opéré, mais en tout cas, Evan Williams, le fameux Eve, qui a mené Twitter depuis le début, a annoncé qu'il allait prendre un petit peu faire un pas en arrière et laisser la présidence de la société à un autre président qui serait lui complètement spécialisé dans la gestion de grosses entreprises, Dick Costolo, qui a travaillé chez Accenture, enfin il était chez FeedBurner avant que Google ne les achète. Bref, c'est un type qui a l'habitude de bosser pour des grosses sociétés. Bon, FeedBurner c'était pas forcément énorme, mais Accenture c'est pas minuscule. En gros, c'est une vraie preuve de maturité chez Google et surtout chez Twitter évidemment. Et c'est à mon sens une vraie preuve de sérieux chez Evan Williams qui dit Twitter est en train d'atteindre une taille que je ne peux plus gérer par moi-même, donc il est temps pour moi de faire ce que je sais faire, de gérer les produits, de gérer le développement, et pas forcément de faire de l'administration. Et je trouve ça assez courageux et assez réaliste. Et je suis sûr que Jeff nous dirait, puisque c'est un spécialiste de ces choses-là, que c'est un passage obligé et que ça montre que les choses continuent à devenir de plus en plus sérieuses pour Twitter. Donc voilà, c'était juste une petite news comme ça en passant, mais qui a quand même son importance.
Oui, bah, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut imaginer que Costolo va préparer la revente de Twitter à Google, comme il a vendu FeedBurner avant en 2007 à Google. Non, mais je crois que c'est entériné parce que Evan Williams a tweeté le fait qu'il cédait la place justement à Costolo, donc ça doit être déjà actif. Mais
je pense qu'ils font la même mutation que Google a fait, je sais pas en quelle date, mais voilà, quand ils ont les fondateurs, ceux qui ont créé le produit Google, ont vu que pour faire du business,
Sergey Brin.
Ouais, pour faire du business, à un moment, il faut quelqu'un qui se concentre là-dessus pour qu'eux puissent se concentrer sur le produit. C'est une sage décision quand une boîte atteint une certaine taille. Ça, bon, voilà, je dirais rien de plus que ça, mais ça sent bon pour Twitter.
Ouais, c'est vrai.
Exactement. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission et évidemment, avant de passer à la conclusion, on fait notre passage obligé qui est la statosphère de Guillaume qu'on écoute immédiatement.
Salut à tous. Il y a quelques semaines, je vous parlais du Minitel et des 2 millions de Français continuant à utiliser ces services dédiés. Ce chiffre a de quoi surprendre, mais ne constitue pas la seule technologie que les Français aiment à conserver. Figurez-vous qu'en 2010, nous sommes encore 1% de Français à utiliser des appareils photo argentiques, tandis que nous sommes 84% à faire tirer nos photos sur papier. Parlons des téléviseurs. Encore 1,3 million de téléviseurs à tube cathodique se vendaient durant l'année 2007. La législation aidant, il ne s'en vendait plus que 7 fois moins en 2008. Depuis, heureusement, il n'est plus commercialisé. Ce sont désormais 5 millions de téléviseurs LCD et 600 000 écrans plasma qui trouvent acquéreurs tous les ans. Enfin, évoquons les disques vinyles dont le marché, pour le coup réputé très stable, repose largement sur la formidable manne que constituent les collectionneurs. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr, le compte Statosphere sur Twitter et la page Statosphere sur Facebook. À bientôt.
Merci à Guillaume et la Statosphère. Moi, le chiffre que je retiens, c'est le 1% d'utilisateurs d'appareils photo argentiques. En même temps, c'est logique, plus personne n'utilise des appareils photo avec film. Mais la vitesse à laquelle on a complètement changé de technologie, moi, me surprend plus qu'autre chose, quoi. Ça m'étonne qu'il y ait seulement 1% de gens qui utilisent des argentiques. Je sais pas, moi, j'imagine bien les papis et les mamies qui seraient nombreux à encore utiliser leur petit machin avec film.
Bah, enfin, peut-être que surtout, enfin, moi qui m'intéresse un peu à l'histoire en amateur, tu t'aperçois qu'on est en train de vivre des accélérations de l'histoire, notamment de l'adoption des technologies. Quand tu regardes l'adoption de la voiture, du téléphone, etc., ça a pris beaucoup plus de temps. Et nous, on change tous les 5 ans maintenant de technologie, ouais. Mais fondamentalement. Donc, je sais pas comment l'histoire nous verra plus tard, mais on vit dans une époque assez incroyable quand même.
Nous vivons une époque formidable.
Oui. Bon, et vous... j'adore Super Carotte qui dit 3615 French Spin.
3615 No Watch même. À propos de technologie formidable, certains pourraient penser que iTunes n'est pas une technologie formidable, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça permet aux gens de découvrir les podcasts. Et vous savez quoi, si vous voulez aider vos amis ou des gens que vous ne connaissez pas même à découvrir les podcasts que vous aimez, les podcasts de No Watch, vous pouvez aller sur iTunes et laisser un commentaire. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Vous pouvez laisser un commentaire comme l'a fait Moutaille qui dit, qui nous laisse un commentaire avec 5 étoiles, il nous dit « Nouvel auditeur, depuis aujourd'hui, je vous félicite pour ce super podcast, la technologie décortiquée sous tous les angles, la diversité des thèmes, vraiment génial. Mais, ayant commencé par l'émission du 22 juin, j'ai été choqué, lol, par votre comparaison du créateur de Facebook à Pierre et Marie Curie ou Pasteur. Il y a des limites quand même. En tout cas, 5 étoiles sans aucun regret, continuez comme ça. Merci vraiment Moutaille, merci beaucoup. J'avoue que je sais plus du tout ce qui s'est passé le 22 juin, mais je sais pas ce qu'on avait bu pour comparer Mark Zuckerberg à Pierre et Marie Curie. Franchement, il y a des fois, c'est la preuve ultime qu'il faut pas écouter tout ce qu'on dit, parce qu'il y a des fois, on en sort des grosses quand même. Faudrait que je réécoute pour voir dans quel contexte on disait ça, mais
c'est peut-être sur la radioactivité, non?
c'est parce possible. qu'il irradie son.
Voilà, il exactement.
Voilà, bon, donc en tout cas merci Moutaille, si comme lui vous voulez nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à aller sur iTunes, vous cherchez le Rendez-vous Tech et vous mettez un petit commentaire dessus, ça prend 2 minutes et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir.
Exactement. Et si on veut, si vous voulez écouter encore plus de ce qu'ont à dire David et Jérôme, où faut-il aller sur Internet? On commence par David, qui est notre tout jeune invité podcastien.
Alors, moi, on me retrouve sur le Quadratour, le podcast des papy geeks qui vous parle des vieux trucs de l'informatique qui n'existent plus. On trouve ça sur quadratour.net ou sur iTunes, on tape Quadratour, et voilà. Et sinon, on me retrouve sur Twitter, David Brage, je me souviens même plus de mon Twitter. voilà, où je suis le plus actif possible. J'avoue qu'en ce moment c'est très difficile puisque nous déménageons nos locaux et donc depuis 3 jours nous n'avons plus d'internet. Ils ont coupé les serveurs et là je suis malheureux comme la pierre. Et l'iPhone ne remplace pas mes pulsions de Twitter. Donc voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur le Quadratour et sur Twitter, David Brage.
Merci David. Jérôme, quid de ton
eh bien,
de ta présence?
Moi, je vais utiliser mon temps de parole pour faire 2 publicités. J'aimerais parler d'un podcast que j'anime avec Christophe, où on parle de David. C'est le dernier Zapcast qui est sorti. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce que justement,
David, il est génial.
Et voilà, David est un mec génial et vous en aurez la confirmation parce que vous Merci. Verrez, il n'a pas parlé de la Fantasy TV, mais David a suivi un rêve jusqu'au cauchemar.
Je tiens à rassurer tout le monde, le troisième épisode arrivera très bientôt. C'est l'Arlésienne, mais il va arriver.
C'était super intéressant de nous présenter. Il y a la technique que tu as mis derrière et moi j'ai pris grand plaisir à faire cette interview. Donc allez voir le dernier Zapcast. Et une toute petite pub pour le journal de tournage de Signature, qui est un nouveau format de podcast que No Watch lance. Donc, c'est des documentaires. Là, c'est le numéro 2. Et vous allez pouvoir suivre toute l'équipe de Hervé Admar, le réalisateur de Pigalle et des Oubliés, dans sa nouvelle série Signature à La Réunion. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est nous, mais c'est hyper intéressant parce que, voilà, du podcast documentaire, un nouveau format, expérience qu'on fait. Dites-nous si vous aimez ou pas.
Et ben moi je le dis, c'est génial. J'ai regardé le premier épisode et ça me, enfin, je vais télécharger le deuxième très vite. C'est vraiment excellent et très intéressant.
On a eu le plaisir d'être mis en avant par iTunes. On a eu cet honneur. Donc c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est un petit peu aussi des gens qui sont derrière et qui voient que c'est quelque chose de qualité. Donc il y a aussi la caution iTunes. Donc merci à eux. Et donc effectivement, c'est sur nowatch.tv ça aussi. Et c'est un projet original et intéressant pour une équipe de podcasteurs.
Et c'est mérité. Il faut rappeler, les gens, je le dis, ne rougissez pas, mais tout votre travail, toi, Jérôme et Patrick, est extraordinaire. Vous faites ça bénévolement, vous faites ça pour le plaisir des auditeurs.
Non, tu rigoles, si vous avez... pas bénévole, on est dans non, des mais... piscines d'argent actuellement.
Non, mais je peux confirmer que vous donnez énormément de votre temps et de votre passion. Et moi, je tenais à vous remercier pour ça parce que franchement, vous êtes extraordinaire à ce niveau-là.
C'est gentil, merci David. Bon, pour être parfaitement honnête, maintenant on commence à avoir des sponsors, donc on espère que ça nous payera bientôt les pâtes et les épinards. On n'y est pas encore, hein, donc c'est vrai qu'on y met encore beaucoup de notre temps libre. Donc merci, ça fait plaisir d'avoir
passion, des retours
comme
ça. La passion restera longtemps le sponsor numéro 1 de
Watch. Ouais, ça fait quelques années qu'on y est et je crois qu'on n'a pas fini d'en bouffer de la passion. Ouais. Et ça nous fait toujours autant plaisir. Et ça nous fait aussi plaisir que vous, fidèles auditeurs, vous soyez là à nous écouter. Donc si vous voulez continuer à nous écouter et découvrir d'autres émissions, vous pouvez aller sur nowatch.net où vous découvrirez peut-être des émissions que vous ne connaissez pas encore, qu'elles soient audio ou vidéo. Vous trouverez tout plein d'émissions intéressantes. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais il y en a une bonne partie, dont l'original journal de tournage dont on vous parlait à l'instant. Et pour nous, le rendez-vous tech plus précisément, ça sera le 25 octobre. Je ne sais pas si on pourra vraiment enregistrer le 25. Peut-être qu'on devra décaler au 26 parce que moi, je serai aux États-Unis.
Oh, great.
Wow. Donc, oh, man.
Ouais, exactement. Donc, on verra. En tout cas, ça sera à peu près dans 2 semaines. On sera de retour et on vous retrouvera avec très grand plaisir. Et d'ici là, on vous fait de grands bisous et on vous dit à très bientôt.
Ciao.
Salut tout le monde. Ciao la chatroom. Vous avez été super.
Bonne nuit, on va coucher les papys là.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.